Bonjour à tous et merci d'écouter CFM Radio. Le Mac du Tarn est jusqu'à la demi. Ce dimanche, nous sommes appelés aux urnes pour le premier tour des élections régionales. Qu'est-ce qui va changer dans notre vie avec cette future régionalisation? On en parle aujourd'hui dans le Mag avec François Tollel, professeur à l'Université Champollion d'Albi.
CFM, le Mag, tous les jours,
12h, 12h30,
la vie du pays cordais.
Bonjour François Tollel.
Bonjour.
Professeur de géographie, aménagement du territoire et urbanisme à l'université Jeff Champollion d'Albi, vous êtes sur CFM pour nous éclairer sur les enjeux, les limites et les conséquences que les futures régions qui sont nées de l'adaptation de la loi NOTRe, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Dans les deux précédentes émissions où vous êtes intervenu, nous avons abordé les fondements de cette loi, les compétences dévolues aux nouvelles collectivités qui vont découler de ces régions, que vont devenir les départements, les intercos, avec une projection sur le devenir des communes. Aujourd'hui, nous allons tenter de mesurer l'impact de cette régionalisation sur le quotidien des habitants. Mais tout d'abord, sachant que parmi vos thèmes de recherche, vous vous intéressez notamment aux politiques européennes en matière d'aménagement. L'Allemagne est souvent présentée comme étant un modèle avec son système fédéral. Quelle analyse ou quel bilan faites-vous du fonctionnement allemand dans sa globalité ?
Bon, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Allemagne. C'est un système complètement différent. C'est un système fédéral. Donc il y a une mutualisation, il y a de grandes compétences qui sont laissées aux Länder, qui ont leur propre juridiction, donc on a une législation aussi de type fédéral, donc c'est un système complètement différent. Alors nous, on essaie d'être à la maille d'un certain nombre de Länder allemands, même s'il y a des Länder qui sont très petits aussi en Allemagne, il n'y a pas que des Länder de grande taille. Donc l'idée, c'est d'avoir effectivement une maille européenne parce que les régions européennes, soi-disant, devaient avoir une taille. Bon, ça n'a jamais été démontré. Mais effectivement, le modèle européen est souvent mobilisé pour dire qu'il faut des grandes régions pour être à la maille européenne. Bon, ça, c'est absolument pas démontré. On a en revanche un phénomène en Europe, c'est un phénomène plutôt d'égoïsme territorial. Il y a un bouquin qui est sorti récemment de Laurent Davezy qui explique ça. On le voit avec la Catalogne, on le voit avec un certain nombre de régions comme la Lombardie, comme les Flandres en Belgique, comme l'Écosse. En fait, il y a tout un tas de régions qui ont envie de sortir du moule national pour justement, souvent sur des prétextes identitaires, mais qui sont aussi des prétextes de développement économique. La Catalogne, c'est une des régions les plus riches d'Espagne. Elle en a marre de ces politiques de solidarité, de redistribution du budget de l'État sur des territoires moins riches comme les Asturies, la Cantabrie, etc. Et du coup, il y a un certain nombre de mouvements de ce type en Europe. Et là, en fait, ça traduit des risques de délitement de l'État-nation. Alors en France, on n'est pas dans cette configuration-là. Il n'y a pas un délitement de cet État, peut-être aussi marqué que l'est la remise en cause de la solidarité en Belgique, dans les Flandres, en Italie, en Espagne. Et le modèle allemand, c'est un modèle qui est le modèle de l'État fédéral dans sa splendeur, c'est-à-dire un peu sur le modèle aussi américain, avec un grand pouvoir qui est laissé aux Länder. Nous, on n'a pas du tout cette tradition-là, en fait. Et les textes et tout ce qui a été fait jusqu'à présent, même la loi NOTRe, ne débouche pas sur ce type d'approche, en fait. C'est pas un modèle qui est en toile de fond de l'organisation de ces nouvelles régions.
Est-ce que la régionalisation est préconisée par l'Europe d'une manière ou d'une autre ? Quand je dis l'Europe, c'est au niveau de l'Union européenne.
Bon, l'Europe, elle a une politique puissante qui est le deuxième poste budgétaire, c'est la politique de cohésion. Et c'est vrai que dans la politique de cohésion, la région, c'est une entité de rang infra-étatique qui sert à la distribution des crédits que l'on appelle les crédits FEDER, les crédits FSE, c'est-à-dire l'argent de la politique de cohésion. Donc l'Europe, elle a envie d'avoir des interlocuteurs qui ne soient pas trop nombreux. Alors quand on dit l'Europe, c'est essentiellement la Commission européenne, parce qu'après il y a le Conseil avec les chefs d'État et de gouvernement, puis il y a le Parlement européen. Donc c'est vrai que l'Europe, elle a plaidé pour le régionalisme. Et à un moment donné, les États, ils avaient peur d'un contournement de leur rôle par justement un dialogue que la Commission européenne pouvait instaurer directement avec les régions, puisque l'Europe a toujours renforcé les régions. Et on le voit d'ailleurs sur la charte des langues régionales, etc. Les régions, elles ont toujours utilisé l'Europe pour faire valoir leurs droits, leurs devoirs, pour faire valoir aussi leurs revendications. Elles se sont servies de l'échelon européen. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que les États ont repris en main un certain nombre de prérogatives et sont intervenus dans le jeu. Alors dire que l'Europe favorise l'émergence de régions, c'est la vérité. L'Europe, elle favorise aussi l'émergence d'interrégions, puisqu'il y a une coopération interrégionale avec les programmes Interreg, pour essayer de faciliter justement les coutures sur le territoire, coutures de proximité, coopération transfrontalière, mais il y a aussi des coutures à distance, comme la coopération transnationale. Je ne sais pas si vos auditeurs savent, par exemple, qu'il y a un programme qui s'appelle SUDOE, Sud-Ouest Européen, dans le programme de coopération, qui intègre Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, et puis toute l'Espagne, tout le Portugal et Gibraltar. Et ce programme, il est géré à Santander, en Cantabrie, où il y a des fonctionnaires anglais, parce qu'il y a Gibraltar, espagnols, portugais, français, qui se retrouvent là et qui gèrent une partie du programme de la politique de cohésion. Donc l'Europe, effectivement, elle favorise les régions, elle favorise les regroupements régionaux, mais à côté de ça, bon, les États ne sont pas aujourd'hui dans une dynamique d'éclatement. Les États, ils ont trois compétences majeures, comme le disait l'ancien délégué à l'aménagement du territoire, ils ont la monnaie, ils ont l'armée, ils ont le territoire. Donc c'est vrai que sur la monnaie, il y a eu des transferts importants à l'Europe, avec l'euro. Sur l'armée, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Hein. Et sur le territoire, il y a cette coopération transfrontalière, mais c'est encore pas grand-chose en matière de transfert, si ce n'est Schengen, en fait, après, pour la libre circulation. Et on le voit aujourd'hui, c'est un sujet quand même extrêmement brûlant.
Oui. Donc l'Europe qui ne veut pas avoir trop d'interlocuteurs, mais par contre les habitants, eux, auront beaucoup d'interlocuteurs, la commune, l'interco, etc. Donc le millefeuille français, là, en quoi on reprend une couche, donc la France qui est déjà taxée d'être le pays de la paperasse, alors là, on sera bien servi. Est-ce que vous avez une idée de ce que va être la masse salariale de ces régions-là ?
Non, je n'en sais absolument rien. Il y a des estimations qui sont faites, il y a des calculs qui sont faits sur l'économie, le coût. Je crois que dans la première émission, j'ai parlé de l'étude qui avait été faite pour essayer d'envisager le coût de la fusion de la Basse et de la Haute Normandie. Je crois que cette étude a montré que les gains étaient obtenus à partir de 7 ans de fonctionnement. À partir de la 7e année, il y avait des gains. Donc on n'a pas encore extrapolé, on n'a pas fait des analyses de ce type. Mais il est certain qu'il va y avoir des mutations, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des réorganisations de services, tout ça va avoir un coût, hein. Ça c'est évident. Alors en termes d'efficacité, ensuite, on ne sait pas non plus. Vous avez dit tout à l'heure, il va y avoir plusieurs interlocuteurs. Mais finalement, le citoyen, ce qui l'intéresse, c'est de voir, en fonction des demandes qu'il peut avoir, s'il y a un seul opérateur, en fait, s'il y a des blocs de compétences qui sont clairement identifiés, si on sait, par exemple, que les collèges, c'est le département, comme c'est le cas aujourd'hui, les lycées, c'est les régions, si on sait que l'aménagement, c'est la région, si on sait, etc., ça peut être une forme de lisibilité. J'ai des collègues qui plaident pour une formule qui s'appelle l'interterritorialité. Donc, ils sont dans une démarche qui consiste à dire, finalement, aujourd'hui, c'est trop compliqué, les découpages, les périmètres, les compétences. Le mieux, c'est de prendre projet par projet, de voir qui va sur les projets. Et donc, on aurait des accords, des regroupements d'acteurs en fonction du projet qui est présenté. Moi, ça me paraît encore plus dangereux. C'est-à-dire que là, l'illisibilité, elle est totale. On aurait effectivement des projets, mais on n'arriverait pas à lire qui finalement participe à ces projets. Donc, il me semble que des compétences clairement identifiées avec des chefs de file, c'est une solution qui est plutôt intéressante. Alors après, se pose la question de l'éloignement. Donc la cellule de base, ça reste quand même la commune. L'intercommunalité, au maximum, on l'a vu tout à l'heure, 15 000 habitants regroupés, c'est pas non plus quand même extrêmement compliqué. Le département, alors ça dépend si le département disparaît, s'il est maintenu, mais effectivement, si on passe directement de l'interco peut-être à la région, ça va faire un choc de pratiques et d'habitudes, parce que la région, ça paraît un espace très vaste, très compliqué à appréhender, il est grand. Donc je disais tout à l'heure, il y a quand même des relais régionaux et puis il y a une présence en fait après de toutes ces entités sur les territoires. Et alors, à mon avis, ce qui compte vraiment, c'est que cette présence, que ce soit la présence de l'État, que ce soit la présence de ces collectivités locales, elle se matérialise dans les territoires et notamment dans les territoires les plus en retrait, que sont les territoires ruraux, les territoires enclavés. Et donc, on a travaillé plusieurs fois sur les services publics dans les territoires ruraux, par exemple. Et c'est vrai que cette présence des terminaisons nerveuses de l'État, des régions, à travers des entités comme des maisons de services publics, comme, bien entendu, les écoles, les hôpitaux, etc., ça, c'est quelque chose qui répond directement aux citoyens, que ce soit financé par la région, le département, peu importe. Mais il ne faudrait pas que ces recompositions entraînent un retrait des services publics, un retrait de l'État, un retrait des régions, sur des territoires qui ont besoin de ces aides-là. Alors c'est un risque parce que quand on voit que Le discours, on l'a vu dans la deuxième émission, je crois, qui sous-tend ces redécoupages, souvent c'est un discours sur la métropolisation. Donc le renforcement des métropoles, on peut se dire, renforcement des métropoles, renforcement des régions, quid des espaces ruraux et des espaces en dehors des métropoles. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un délitement de ces territoires, un retrait de ces opérateurs que sont les régions, qu'est l'État aussi de ces territoires, ou au contraire, est-ce que ces régions elles vont avoir une stratégie de présence, de coprésence avec l'État, puisque la région ne va pas faire de l'enseignement directement. Il faut que l'État continue d'exercer ses compétences régaliennes, enseignement, santé, maternité, gendarmerie, etc. Donc là, il y a un véritable enjeu qui consiste à voir si cette recomposition territoriale, elle va entraîner, en termes de services à la population, plus de services, ou au contraire un retrait des services. Il me semble que le retrait des services, ça serait hyper dangereux.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'on sait déjà comment vont être un peu disposés ces services entre Montpellier et Toulouse, qui vont être les deux grosses métropoles de la future grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon?
Non, alors j'ai pas suivi complètement les partages qui s'opèrent actuellement. Je pense qu'il doit y avoir des réflexions sur la réorganisation des services et des administrations de l'État. Bon, là, c'est entre deux métropoles, avec certainement des points d'appui dans les villes moyennes. Et dans les préfectures de département. Non, là, je parlais plutôt des services publics, c'est-à-dire de la présence des services du quotidien. Qu'est-ce qui va se passer en matière de transport scolaire? Comment on va harmoniser tous ces transports scolaires quand on va avoir un opérateur qui va être plus éloigné, par exemple. Alors, on a dit que les départements avaient récupéré cette compétence. Mais sur les TER, par exemple, comment vont se faire les raccordements? Sur l'enseignement supérieur aussi. Ça nous intéresse directement ici à Champollion, puisqu'on a eu du mal déjà à exister au sein de la région Midi-Pyrénées. On a trouvé notre place dans un paysage universitaire que la région a appuyé par des contrats de sites, par toute une série de démarches. Dans la région Languedoc-Roussillon, il y a une autre démarche avec une autre philosophie. Quand on va mettre ensemble ces deux philosophies de l'enseignement supérieur, qu'est-ce que ça va donner? On sait qu'en Languedoc-Roussillon, le choix a été fait de s'appuyer sur des polarités parfois qui sont contestées, comme l'université de Nîmes, qui est une université de plein exercice, contrairement à Champollion, qui a un statut qui n'est pas celui de l'université de plein exercice, même si le statut est en train de changer. On a Mende aussi, qui a des compétences universitaires. Comment est-ce que ces politiques universitaires, elles vont s'emboîter, en fait? Là, il y a un véritable enjeu. Alors, je pense que sur toute une série de thèmes, comme ça va être intéressant de voir ce qui va être proposé, et si, à force d'harmoniser et de simplifier, on ne va pas se retirer d'un certain nombre de territoires. Moi, c'est la crainte que j'ai, en fait. C'est qu'il y ait peut-être parfois des simplifications, des harmonisations qui font qu'on va avoir des retraits des territoires. Et ça me paraît très, très dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on le voit sur les services publics, il y a deux types de discours, en fait. Il y a un discours qui consiste à dire, finalement, ça coûte cher d'avoir des services publics dans les territoires ruraux. On a finalement des territoires ruraux qui s'en sortent pas si mal que ça. Quand on regarde, comme le fait Philippe Esteb dans un ouvrage récent, l'encadrement par les enseignants du primaire dans les espaces ruraux et dans les quartiers des villes en crise de la banlieue parisienne, c'est flagrant. On a un enseignant pour 10 élèves ou 15 élèves dans les territoires ruraux, on en a un pour 30 ou 40 élèves dans les banlieues. Donc il faut arrêter d'avoir cette politique d'équité dans les territoires. Bon, on peut entendre ce discours en termes de rentabilité, d'efficacité économique. Mais en réalité, c'est aussi un moyen de rassurer les territoires que d'avoir cette présence des services publics. C'est aussi un moyen pour éviter à des élèves de faire trop de déplacements. Parce que quelles sont les alternatives, en fait? C'est quoi? C'est fermer les écoles et dire à des élèves, finalement, allez vous regrouper à tel endroit, et puis si les déplacements sont trop longs, on pourra vous héberger ou faire dormir. Donc on parle d'élèves qui sont dans les classes primaires. Ou bien on arrête le service et puis débrouillez-vous, donc mettez en place des communautés éducatives type Freiné, type Steiner, etc. Donc on ne sait pas en fait quelles sont les alternatives à ça. Donc il y a un discours aujourd'hui qui consiste à dire ça coûte trop cher, il faut se retirer, etc. Mais en même temps, on peut se dire, et ça c'est la position qu'on adopte nous dans notre équipe de recherche, on n'est pas une équipe de militants, on est une équipe de scientifiques, et donc les sociologues qui sont avec nous, ils vont sur le terrain et ils se rendent compte que il y a un stress territorial, surtout avec la réforme des politiques publiques de Nicolas Sarkozy. Il y a eu un certain nombre de retraits de l'État des territoires, avec toute une série de politiques qui ont été mises en œuvre en même temps. La carte des tribunaux, de la gendarmerie, des écoles, tout avait été fait en même temps pour se retirer des territoires, des hôpitaux de proximité, etc. Donc, ce que l'on voit, en fait, c'est qu'il y a une population qui nous dit « l'État se retire ». L'État s'éloigne, l'État se retire.
Nous sommes délaissés.
Nous sommes délaissés, voilà, c'est le titre de notre ouvrage, le délaissement du territoire. Nous sommes délaissés, c'est-à-dire qu'on est délaissés, on est abandonnés. Alors on peut répondre en disant, mais non, vous avez tout faux, aujourd'hui l'enjeu c'est les métropoles, etc. Mais on peut aussi se dire que dans une république, prendre en compte le point de vue des citoyens, peut-être pour rassurer ces citoyens, c'est aussi investir dans ce que je disais tout à l'heure, les terminaisons nerveuses de l'État. C'est-à-dire que d'avoir une présence de services publics dans les territoires, c'est aussi un moyen de renforcer le pacte républicain, et c'est pas idiot. C'est pas plus idiot que de faire des pôles de compétitivité. Il me semble que le pacte républicain, c'est ça aussi. Les investissements stratégiques d'avenir, c'est aussi des services publics modernisés, dynamiques dans les territoires.
Une question qui intéresse beaucoup de personnes, quels que soient les champs d'intérêt, les champs d'action, c'est la vie associative. Quel pourrait être, selon vous, l'impact de cette régionalisation sur la vie associative pour les citoyens lambda ?
Bon, je pense que la vie associative, elle peut... c'est pas que répondre là-dessus, en fait, sur cette vie associative par rapport à la grande région, ça, je n'en sais absolument rien. Je pense qu'il peut y avoir des regroupements d'associations qui existent de part et d'autre, mais enfin, bon, elles l'auraient déjà fait ou elles sont en réseau, je pense que ça existe déjà. Non, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir peut-être des opportunités à travers des programmes de développement territoriaux tels que les programmes LEADER, qui sont des programmes européens, pour renforcer la vie associative, renforcer les projets de développement des territoires, les contrats de développement dégagés par les régions. En fait, il y a eu dans le cadre des contrats de plan État-région, il y a un volet territorial. Donc là, il peut y avoir des choses à prendre. Je ne vois pas en fait en quoi le regroupement régional pourrait dynamiser la vie associative. Je ne vois pas là non plus de lien direct entre les deux.
Par rapport à l'imposition, par rapport à la vie associative, donc les subventions, des choses comme ça, c'est vrai que ce sont des véritables questions sur lesquelles la loi, ou en tout cas ne donne pas de lecture claire, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer.
Ouais, là on est toujours sur les compétences et les moyens, voilà. Donc ça pose la question effectivement des compétences et des moyens. C'est-à-dire que si le tissu associatif dépend de dotations d'une collectivité beaucoup plus grande, mais qui voit ses moyens diminuer, forcément, ça va être tendu. Il va y avoir de la concurrence. Si, au contraire, on a une collectivité qui a des compétences plus affirmées et qui a des budgets plus importants, là, on va avoir plus de marge de manœuvre. Donc, tout dépend, en fait, au-delà du découpage, quelles sont les compétences et quels sont les moyens financiers qui vont être attribués à ces grandes régions.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du pays cordais.
François Tollel, professeur en géographie, aménagement du territoire et urbanisme à l'Université d'Albi, avec nous sur CFM pour parler des régionales qui approchent. S'il fallait noter cette loi en tant qu'enseignant, vous lui donnerez quelle note ?
Non, je ne donnerai pas de note parce que je pense que c'est difficile de donner des notes aujourd'hui. Et notamment à cette loi, un juriste peut-être pourrait donner des notes sur un tas de critères en fait, qu'il pourrait lui-même lister et puis pointer. Non, je pense
que... des limites alors de la loi.
Je pense que ce n'était pas une priorité. Voilà. Je pense que ce n'était pas une priorité. Je pense que ce qui compte, c'est les moyens et les compétences. Je pense que le découpage territorial, franchement, j'en vois pas trop le sens. Pour moi, c'était pas vraiment une priorité. Je n'ai pas compris en fait pourquoi ça arrivait à ce moment-là et pourquoi ça pouvait répondre aux enjeux tels que le chômage, la crise économique, de mettre en place cette réforme territoriale.
Bon, vous inquiétez pas, la prochaine mandature, le prochain président abrogera celle-ci pour en faire la sienne peut-être, non ? C'est pas possible ?
Peut-être, enfin là il me semble quand même qu'on est parti sur quelque chose qui va être relativement stabilisé, parce que ça met quand même en mouvement des territoires, et ça les met pour longtemps quand même ensemble, du coup ça mobilise les énergies, il m'étonnerait qu'on revienne quand même sur cette carte régionale, peut-être à la marge, mais ça va être un peu compliqué d'y revenir. En revanche, il y a tout le chantier des départements, où là on voit qu'on a des positions qui varient selon les politiques, en fait, il y a des points de vue là-dessus un peu différents. Il y a le chantier de l'intercommunalité qui là aussi nécessite des précisions, et puis il y a tout ce qu'on appelle les territoires de projet, notamment les PETR, là on voit pas comment ça va exister par rapport à cette carte-là. Donc effectivement ça suppose aussi une lecture, mais il faudrait pas surtout que cette lecture elle soit trop dominante. Je pense que j'ai essayé dans les émissions de le montrer qu'il y a une approche qui doit se faire à partir du terrain, c'est-à-dire de voir à partir du terrain, au-delà de ces grandes tergiversations administratives, stratégiques, politiques, compétitives, tout ce qu'on veut. C'est important quand même de regarder à partir du terrain concrètement comment on peut arriver à dynamiser des territoires qui sont extrêmement divers dans leur dynamique. qui fonctionne de manière très très différente. J'essaie de le montrer, hein, de vous montrer à partir de l'exemple du bassin Cévenol, du bassin minier, des villes moyennes, du littoral. On a des territoires qui fonctionnent de manière très très différente, qui ont des enjeux. Et en fait, l'aménagement du territoire, c'est de répondre à ces enjeux, d'essayer de les anticiper aussi, par ce qu'on appelle la prospective. Donc, est-ce qu'avec tout ce qu'on est en train de faire, on va avoir les moyens de répondre à tout ça? Ça, c'est une véritable question qu'on pourra traiter dans 2 ans, quand vous reviendrez, pour qu'on fasse le bilan de tout ça. On posera des jalons et puis on regardera ce que ça a donné. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup d'attentes, mais pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a une incertitude.
Bon, laissons de côté votre avis d'expert pour la fin de notre entretien. On va s'intéresser plus tard. Je vais prendre le pouls citoyen, parce que mine de rien, c'est régional, on a l'impression que ça n'intéresse, mais alors personne. Est-ce que vous irez voter, vous?
Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, j'irai voter. Oui, bien sûr, j'irai voter, comme j'ai voté à toutes ces élections, oui.
Vous vous intéressez à la campagne en cours
ou... Je m'intéresse à la campagne en cours. Ça m'intéresse de voir quels sont les choix des uns et des autres, bien sûr, oui, bien sûr.
Bon, vous êtes l'un des rares, hein, parce que quand je pose la question dans la rue, ça intéresse très peu de gens. Je ne sais pas si c'est que c'est trop technique ou il y a très peu d'explications. C'est peut-être aussi une des raisons, c'est qu'on explique peut-être moins.
Ouais, mais quand même, quand on est au quotidien, je pense quand on a des gosses scolarisés en collège, quand on a des gosses scolarisés en lycée, ce qui n'est pas mon cas, mais j'en ai en collège, en école primaire. Quand on est dans une université comme le Centre Champollion, on voit ce qu'est la région. Quand on prend le TER, on voit ce qu'est la région. Quand on va dans les collèges, on voit ce qu'est le département. Donc on identifie plus ou moins les structures qui agissent sur le territoire. Et ces structures-là, on peut les transformer. On peut aussi intervenir pour justement remettre en cause des politiques, au contraire appuyer certains dispositifs. Tout à l'heure, j'enseignais devant des étudiants de licence pro culture. Donc ils font de la culture en milieu rural. Bon, ils dépendent beaucoup dans leur poste, dans leur projet, des programmes leaders. Ils dépendent beaucoup des politiques régionales, culturelles. Parce qu'aujourd'hui, la politique culturelle de l'Europe, elle n'est pas très évidente. Dans les programmes de la politique de cohésion, il n'y a pas trop de culture. Mais en revanche, la région Midi-Pyrénées, elle a quand même une politique culturelle. Donc ces étudiants, ils connaissent ces opérateurs, en fait. Ils savent qu'ils existent, ils savent qu'ils ont des compétences. Et ils essaient de les utiliser au mieux. Nous, dans l'enseignement, à Champollion, on a quand même, dans le développement du centre universitaire, on a un appui de la région. On a vu la région se déployer, avoir une stratégie, avoir une logique, en expliquant qu'on ne pouvait pas tout concentrer à Toulouse, qu'il fallait aussi développer les centres universitaires. Alors au début, on ne savait pas trop ce que la région allait faire. Et puis on a vu concrètement qu'il y a eu des contrats de site, qu'il y a eu des moyens débloqués sur tout un tas de sujets. Ça a été extrêmement concret. Et ce sont des politiques qui ont percolé jusqu'au niveau le plus banal et le plus quotidien de la vie étudiante. Donc, c'est pas négligeable, en fait, de voir que ces opérateurs pour lesquels on va voter ont des politiques, des compétences et disposent de moyens aussi pour mettre en œuvre des stratégies.
Et qui vont nous impacter pour pas mal d'années encore à venir. Ouais. Manger local mais voter global, en somme, c'est ça.
Oui, c'est ça.
François Tolène, merci pour vos éclairages et merci d'avoir accepté notre invitation sur CFM.
Merci à vous, c'était très intéressant de discuter avec vous.
Merci.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du pays Gordais.
Retrouvez l'ensemble des émissions spéciales consacrées au régional sur cfmradio.fr. Premier tour dimanche et le second le 13 décembre. Le MAG du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence. Passez une excellente après-midi et très bon week-end à tous.
La vie des pays au son de la pop et du rock dans le Tarn. La vie des pays, CFM.
Les poches pleines, devine les systèmes même. Je me tasse, trop de place, le système même. Une hélice s'immisce, me transporte, la chance. Danse, mutant tactile, grand corps fragile, le grand air est pas cher. Mutant tactile, grand corps. misère, les systèmes t'aiment. Tu me tiens chaud, tu me sers, les systèmes t'aiment. Une hélice s'immisce, nous transporte. La finance d'ange, mutant tactile, grand corps fragile, le grand air est pas cher.